Romains, chapitre 5. Et pour parler de ce dont on parlera ensuite, la nouvelle création que le Seigneur veut faire dans nos vies, et par amour uniquement, parce que si Dieu veut que des choses changent dans notre vie, c'est pas parce que il a eu un jour l'intention de nous faire changer, mais c'est parce que derrière il y a une nécessité, comme il est nécessaire que le malade guérisse pour son bien, eh bien il est nécessaire que nous naissions de nouveau pour notre bien. Voilà. Et qu'il y ait des changements dans notre vie pour notre bien. Et pour ce pourquoi Dieu nous a créés, c'est vivre heureux, réussir, non pas financièrement, mais réussir notre vie personnelle, notre vie de couple, notre vie de famille avec les enfants. Voilà. Et l'aspect financier, eh bien, ça fait partie des bénédictions et des grâces que le Seigneur donne en plus. Mais on peut être heureux en étant moins riche, on ne peut être heureux en étant plus riche. La base, c'est d'être heureux. Et pour être heureux, il faut donner une place à Dieu. Romains chapitre 5, verset 12. Donc on va pointer du doigt ou mettre l'éclairage sur ce qui s'est dégradé dans le monde. Et ça a fait l'effet de cascade, l'effet domino. Là. Et donc, qui vient dégrader nos vies aussi. C'est pour cela que dans nos vies comme dans le monde, il y a besoin d'un nouveau départ. D'une nouvelle naissance, d'une nouvelle création. Mais le nouveau ciel et la nouvelle terre, Dieu le fera à la fin. Il commence par nous. La nouvelle création, la naissance, la nouvelle naissance, c'est d'abord pour nous, en nous. Donc Romains 5, 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes. Et là, on voit l'effet domino du péché qui est la coupure de la communion avec Dieu, et comme on coupe la fleur, mais dès qu'elle est coupée, elle commence à mourir et elle commence à se dégrader. Et bien dans nos vies, c'est pareil. Quand on est coupé de Dieu, tout commence à se dégrader. Ça va aller jusqu'au point de non-retour. Et on arrive dans Romains 8, verset 18, pour montrer que ça s'est étendu à la création tout entière. J'estime, Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est-à-dire le diable, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière, et nous y compris, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et devant ce constat de chute, d'échec de l'humanité, eh bien le Seigneur est venu. Il est venu pour nous chercher, nous sauver. Il est venu pour que les choses changent dans nos vies, et il est venu pour qu'à la fin, eh bien, nous quittions ce monde, tous ceux qui se confient en lui, pour être pris avec lui, et il va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc, depuis que le Seigneur a étendu sa main sur l'humanité, c'est l'histoire d'un renouveau. Et nous avons besoin de renouveau dans nos vies, d'un nouveau départ, d'une nouvelle naissance. Alors, on va le lire dans l'évangile de Luc, et puis on terminera dans l'évangile de Jean. Luc, chapitre 2. On va lire trois textes qui concernent le Seigneur Jésus lui-même. Luc 2, 25. Chapitre 2, verset 25. Luc 2, 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents amenaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Et Jésus a 8 jours. À 8 jours, on s'émerveille devant un enfant, forcément, de 8 jours. Mais Siméon s'émerveille devant la réalisation des prophéties, la venue du Christ, loin de Dieu, celui qui est le Messie, et qui va changer les choses dans l'humanité. Jésus grandit, chapitre 2, verset 49, il a 12 ans, et il va répondre, alors que les parents, Joseph et Marie, le cherchent dans le temple, dans le temple. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et le Seigneur n'est pas oisif, dans ce sens où c'est un Dieu actif. La preuve, c'est la création. Et la création, elle est belle dans toutes ses dimensions. Les dimensions universelles, l'univers est vaste et c'est magnifique. L'infiniment petit, comme disait Cédric la semaine dernière, est magnifique aussi. Je ne sais pas où il est allé chercher que dans un ver à soie, il y avait plus de 500 muscles ou nerfs. Mais bon, si je ne mets pas en doute ce qu'il a trouvé, certainement, mais ça veut dire que Dieu est actif. Entre parenthèses, si Dieu est actif et que nous croisions des mollassons, il y a un bug quelque part. Ouais, mais c'est juste une plaisanterie. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit actif. C'est peut-être pour ça que vous et moi, eh bien, on ne s'arrête pas, on aime faire des choses. Après, la question, c'est d'être sage et équilibré, mais on aime entreprendre et on y trouve notre bonheur dans ce que l'on fait, et que l'on fait bien. Voilà. Parce que Dieu est comme ça, et il nous a créé à son image. C'est un Dieu actif. Et Jésus dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Voilà que la création que Dieu a faite se dégrade. Ces hommes et ces femmes souffrent. Et Dieu ne l'accepte pas, ne le supporte pas. Comme nous ne pouvons pas accepter ni supporter que nos enfants souffrent. On va tout faire, et on voudrait même prendre sur nous leur souffrance si c'était possible. Pour que ça change, eh bien Dieu va tout faire pour que ça change dans nos vies. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et on tourne la page au chapitre 3. Verset 23, enfin s'il faut tourner la page, pour moi oui. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Voilà. Et à partir de là, le monde va changer. Il a 8 jours, on s'émerveille, mais il est la réalisation des prophéties. Il a 12 ans, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il n'y a pas de temps à perdre. Et dans nos vies, le Seigneur n'est pas celui qui veut perdre du temps. Si du temps est perdu, c'est pas de sa responsabilité, c'est sûr. Et il a 30 ans, il commence son ministère, et depuis, le monde a été bouleversé. Le brigand sur la croix s'entend dire, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le monde a été bouleversé, le diable a été vaincu, le séjour des morts en a été transformé, des choses extraordinaires se sont passées, et nous sommes dans l'attente de la résurrection. Et le Seigneur qui a fait des choses grandioses comme celle-là, maintenant, et c'est ce à quoi je voulais qu'on arrive ce soir, maintenant il s'adresse à vous et à moi, ce Dieu qui a fait tout ça, pour nous dire, et maintenant dans vos vies, on en est où des changements qui sont nécessaires et qui ne peuvent pas être simplement des petites améliorations, parce que l'état de dégradation était tel que ça ne peut passer que par un renouveau, une nouvelle naissance. Le Seigneur qui vient dans nos vies ne vient pas pour améliorer nos vies, il vient pour transformer nos vies. Il vient pour nous donner un nouveau départ. Le point d'équilibre, ou le point de changement plutôt, c'est lorsqu'on en arrive à ce point où on dit maintenant Seigneur, c'est fini, je n'en peux plus. Je ne peux plus, avec mes propres forces, faire quoi que ce soit. Alors, intervient. Et quand on en arrive là, c'est le point final pour nous, c'est le début pour l'œuvre de Dieu. Et à partir de là, quand Dieu peut prendre les choses en main, c'est grandiose, ça devient magnifique. Quand bien même la situation était désespérée, ça devient grandiose et magnifique. La preuve, Eh bien, c'est ce que le Seigneur a fait dans la vie de ces hommes et de ces femmes que l'on lit dans les évangiles ou dans les épîtres, pour lesquels on se dit, eh bien, tu as réussi à faire ça avec eux. Et à partir de leur vie, eh bien, alors il y a de l'espoir pour nous. Voilà. Alors, on va lire l'histoire de Nicodème et on s'arrêtera là. Jean, chapitre 3. Jésus va lui dire, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est incontournable. Il y a des choses qui changent dans nos vies parce qu'on prie, Dieu répond. Mais les choses les plus importantes, ce n'est pas parce qu'on va prier, c'est parce qu'on va dire maintenant, Seigneur, tu prends la première place. Donc Jean chapitre 3. Il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, parce qu'il le voit, il voit venir, il le connaît, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ça veut dire que ce n'est pas simplement des améliorations dans nos vies que Dieu veut faire, c'est une nouvelle créature, une nouvelle naissance, un nouveau départ. Comment ça peut se faire quand on est vieux? Mais Jésus va répondre, ce n'est pas une question charnelle, c'est-à-dire au niveau physique, c'est une question spirituelle. Il faut naître d'eau et d'esprit. L'eau étant la parole de Dieu, l'esprit étant l'esprit de Dieu. Et quand je vais naître de la parole, quand la parole va être en moi à la place qui lui revient, et quand l'esprit de Dieu aura accès en moi, comme Dieu le souhaite, parce qu'il m'a créé à son image, ça veut dire que j'ai une dimension dans ma vie qui est spirituelle. Nous sommes formés de la poussière de la terre, c'est pour ça qu'on ressemble à des choses ici-bas. Et il y a des similitudes entre les êtres vivants au niveau physique. Il nous a créés avec une dimension émotionnelle, psychique, qui est vaste, et qui fait que ben, on n'est pas des bouts de bois, on ressent des choses, etc., on vit des choses. Mais il nous a surtout créés avec une dimension spirituelle. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est là aussi dans un ordre, dans le bon ordre que Dieu agit. Il agit, ou alors laissons-le plutôt agir dans le domaine spirituel, et il y aura des conséquences dans le domaine psychique et physique. Et celui qui se confie en Dieu, il voit ses forces renouvelées. Ça va jusque dans le domaine psychique et dans le domaine physique. Autrement dit, il y a des choses que je veux voir changer dans ma vie. Peut-être au niveau physique, par la guérison, peut-être au niveau psychique, pour ne plus vivre et pratiquer et réagir de certaines manières, eh bien, ces choses-là vont changer. Ça, c'est sûr qu'elles vont changer. Par la porte d'accès, qui est spirituelle. Le monde ne tient pas compte de ça, parce que le monde met Dieu de côté. Alors forcément, il se débrouille dans les deux autres niveaux. Mais nous, qui avons donné une place à Dieu, eh bien, il nous demande, en fait, de bien comprendre l'ordre des choses, et l'ordre des choses est spirituel. Laissons Dieu agir en nous par sa parole et par son esprit, et vous allez voir le résultat. Alors, il faut que vous naissiez de nouveau, c'est un impératif. On ne pourra pas y arriver sans ça. Sans la nouvelle naissance et des changements comme Dieu le veut, on va avancer, mais alors on va avancer clopin clopin. On va avancer avec des hauts et des bas. On va avancer en traînant nos vieilles gamelles. On va avancer avec des lacunes pas possibles. On va avancer et puis on va avancer, on va mal avancer, on va mal vivre, on va mal s'épanouir, alors que Dieu avait prévu l'épanouissement. Et il vient vers nous, pardon, aujourd'hui pour nous dire c'est toujours possible, c'est encore possible, c'est maintenant possible, par l'action de la parole et de l'esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Alors comme quand un petit enfant naît, eh bien, tout est neuf en lui et va se dégrader malheureusement à cause du péché. Mais dans la nouvelle naissance, c'est neuf et ça ne se dégrade pas. Et il va nous donner un cœur nouveau. Et ça a l'air de rien, c'est primordial ce qui se passe dans notre cœur. Parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées et tout le reste. Notre cœur est affecté par tout ce qui est pollué autour de nous. Voilà. Et ça vient générer un mauvais bouillon de culture, hein. Et quand c'est pas bien à l'intérieur, c'est pas bien à l'extérieur. Et vous avez beau être à côté de quelqu'un que vous aimez, que vous avez aimé, vous lui faites du mal. Et l'autre aussi. Et on se fait du mal réciproquement alors qu'on s'aime. C'est le paradoxe absolu du péché. C'est qu'il vient dégrader tout, même là où on n'aurait pas envie de le voir. Et Paul le dira, le bien que je veux faire, j'y arrive pas, il le dira aux Romains. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Misérable que je suis. Il faut que vous naissiez de nouveau, un cœur nouveau, pour aimer et ressentir les choses comme Dieu. Et ça, c'est possible. Et on a vu des hommes et des femmes véritablement se convertir, donner la place qui revient au Seigneur dans leur vie, mais eux-mêmes ne se sont plus reconnus. Dans le miroir, oui, mais pas plus. Ils ne se reconnaissaient plus. Mais on a changé. Foncièrement, on a changé. J'oserais même dire qu'on va avoir un cerveau nouveau. On va réfléchir comme il faut. Avant, on réfléchissait de travers. Je ne sais pas vous, hein, mais dites amen de temps en temps. Je me sentirais moins seul. On réfléchissait. C'était pas correct. Les idées qu'on se faisait sur les gens. Parfois, on avait raison. Parfois, on était complètement à côté. Voilà. Avoir les pensées de Dieu. Je le mets au niveau du cerveau, forcément. Mes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais les pensées de Dieu ne sont pas les miennes non plus. Seigneur, donne-moi les tiennes. C'est ça qui est important. Avoir les sentiments. Que le Seigneur nous donne des sentiments nouveaux pour tout le monde. Et ça, ça va changer la réalité de la vie de tous les jours. Qu'il nous donne un autre regard. Un autre regard. Le Père aime son fils, son fils prodigue. Il a un autre regard sur lui. Le monde dirait, il a dilapidé les biens de son Père. Quel misérable. Mais le Père, lui, il a un autre regard. Dieu a un autre regard sur nos vies. Et il voudrait que nous portions un autre regard sur les choses. Un autre regard sur les gens. Un autre regard sur ce qu'on nous fait. Ne pas prendre les choses comme je les prenais avant. Seigneur, donne-moi de regarder comme tu vois, de regarder au cœur. Et même si je ne vois pas de bonnes choses, Seigneur, que tu me montres, toi, ce que tu es capable de faire pour qu'elles changent ces choses-là. Parce que ce que je veux voir, moi, c'est le changement possible dans les situations. Il faut que vous naissiez de nouveau, qu'il nous donne d'autres oreilles. On n'a pas les bonnes oreilles. Nous, on entend ce qu'il ne faut pas, et on n'entend pas ce qu'il faut. C'est-à-dire, ce que Dieu nous dit, on n'entend pas. Ce que Dieu veut nous dire, on n'entend pas. On ne le capte pas. Ce sont des mots, mais on ne comprend pas. Alors par contre, tout ce que les autres nous disent, alors là, on comprend bien, on retient, ça ne s'oublie pas, ça se grave, etc. Ça nous pourrit l'intérieur. Alors que Dieu voudrait assainir l'intérieur. Mais ça, ça dépend du filtre, hein. Ça dépend de l'oreille. Alors l'avantage, c'est quand on devient vieux, qu'on devient sourd. Parce que alors là, tout ce que les autres disent, c'est fini. Et on se met à lire la parole de Dieu, et du coup, on n'entend plus que la parole de Dieu. Mais c'est un peu tard, quand même. On a laissé des années, des dizaines d'années derrière nous. Permettons à Dieu de changer le filtre, les capteurs, et que je sache écouter comme écoute le disciple. Il éveille chaque matin mon oreille, pour que j'écoute comme écoute le disciple. Si le matin, vous écoutez la bonne radio, vous allez être bien branché toute la journée, au sens propre et au sens figuré, sur la bonne fréquence. Mais si dès le matin, vous commencez par écouter la mauvaise radio, les mauvaises ondes et les mauvaises fréquences, forcément la journée va être plus compliquée. Va être beaucoup plus compliquée. Voilà. Qu'il me donne une langue. Alors moi je le dis toujours, enfin il n'y a pas que moi. Hein. On a mal partout, sauf là. Ça c'est extraordinaire quand même. On a des rhumatismes, des douleurs, on n'arrive pas à sortir du lit, mais elle, elle sort. Elle fonctionne. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais c'est comme ça. La langue n'est jamais en panne. Voilà. Qu'avec notre langue, nous puissions dire ce qu'il faut. Et de temps en temps, c'est bien de se mordre la langue. Je ne sais pas combien de fois, si ça vous est arrivé récemment, de vous mordre la langue, mais quand vous vous la mordez, vous réalisez que finalement, elle est sensible. Hein, voilà. Mais de temps en temps, ce serait bien de se mordre la langue, parce que les autres, ils ne peuvent pas nous la mordre. Hein. Compte tenu où vous l'avez placée. Mais la langue, il n'y a que nous qui pouvons nous la mordre. Mordez-vous la langue. On dit, je me suis mordu les lèvres, mais trop tard. C'est passé quand même, c'est sorti quand même. Mordez-vous la langue. Quand vous avez dit ce qu'il ne fallait pas, mais mordez-vous la langue un bon coup. Que pendant une semaine, ça vous fasse mal. Ah oui, oui. Ça, on va s'en rappeler. La prochaine fois, non, je ne tomberai pas dans le piège. Que vous voulez, que ce soit les autres qui vous reprennent. Si les autres me reprennent, je n'accepte pas. Je vais mal le vivre. Alors je me mords la langue moi-même. Misérable que je suis. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Quand je le dis à un inconnu, j'allais dire c'est moindre mal, mais quand je le dis à quelqu'un que je connais, je lui dis ce que j'aurais pas dû lui dire. C'est ça. C'est fini. Hein? Celui qui l'a entendu, là, il n'est pas prêt de l'oublier. Et il va vous le ressortir au bon moment. Ouais, tu me dis ça maintenant, mais tu m'as dit ça. Oui, mais je regrette. Oui, mais tu me l'as dit quand même. 20 ans après, tu m'as dit ça. 30 ans après, tu m'as dit ça. C'est gravé, c'est au burin. Il n'y a que le pardon qui doit l'effacer. Et quand vous avez demandé pardon à quelqu'un, il n'a plus le droit de vous le ressortir. Méfiez-vous avec ça. Si quelqu'un vous a demandé pardon et que vous lui avez accordé, ne lui ressortez plus la chose. Ne lui resservez plus la soupe. Parce que nous, on est doués pour ressortir la soupe du frigo. Oui, mais je t'ai demandé pardon. Oui, mais moi, je n'ai pas oublié. Là, on est bon. L'un qui demande pardon et l'autre qui n'oublie pas. Que Dieu nous donne de nouvelles mains. Comme dira David, avec des pommes sensibles, quand il était le berger qui prenait soin du troupeau et des agneaux. Que je sache diriger avec des mains intelligentes, dira-t-il. Mais des mains intelligentes, c'est une traduction qui est un petit peu... abstraite. Littéralement, il dit avec des pommes sensibles. Comme on est capable de passer sa main sur les enfants, et on va sentir s'ils ont froid, s'ils ont chaud, s'ils sont fébriles, s'ils sont tendus. Hein? Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'aller chez le kiné ou l'ostéopathe, et il vous dit en vous mettant la main ou les doigts sur le dos, vous avez le dos, vous êtes noué. Alors, qu'est-ce qui noue le dos? Moi, je vous ressors tout ce que j'ai entendu. Hein. C'est les soucis, les contrariétés, trop de travail, etc. Vous avez le dos comme une ficelle pleine de nœuds. Voilà. Alors, ils vous massent pour détendre la chose. Et ces gens-là, ils sont capables, avec leurs doigts et leurs mains, de trouver que vous avez des contrariétés. Ils sont quand même forts. Et nous? Quand vous serrez la main à quelqu'un, ça ne vous parle pas? Alors c'est sûr qu'il y a des personnes, elles ont des mains qu'on a envie de rejeter. Elles sont mous. On n'a même pas envie de... Voilà. Mais quand vous serrez la main à quelqu'un, ça vous parle. Ça vous parle. Et ça, c'est quelque chose d'important. Rappelez-vous des médecins un petit peu plus anciens. Vous regardez... Il fallait éviter leur regard, parce qu'ils avaient un regard scanner. Vous voyez le blanc de l'œil, ils avaient compris le truc. Vous parliez, ils voyaient la couleur de la langue pendant que vous parlez. Voilà. Ils vous palpaient un petit peu, c'est fini. Ah, je sais ce que tu as, ce qu'il faudrait, etc. Eh bien, Dieu est capable, c'est pour ça que l'imposition des mains, je pense que c'est loin d'être quelque chose que nous avons bien compris. Position des mains, c'est un geste. C'est un geste qui est le geste de Dieu. Par son intermédiaire, ou par, pardon, en se servant de nous, il pose sa main sur les gens pour leur apporter la bénédiction, pour sentir ce qui ne va pas dans leur vie. Il ose toucher le mal. Et bien nous, c'est pareil. Avec nos mains, faisons le bien autour de nous. Que nos entrailles soient modifiées et qu'elles deviennent de miséricorde, des entrailles de compassion, que ce qui arrive aux autres, ça nous touche. Parce qu'on s'est blindé à tel point que ce qui leur arrive, ça ne me fait ni chaud ni froid. Attention, il y a un danger, c'est de devenir insensible, de s'être vraiment blindé pour le coup. On est insensible à tout ce qui se passe. Quelqu'un qui meurt sans Dieu, ça ne me fait plus rien. Oula, signal d'alerte, hein? Attention. Au contraire, nous devrions être interpellés. Et quand bien même, et c'est là où dans notre vie tout devient équilibré, dans le sens de la nouvelle naissance, où tout est parfaitement équilibré, parce que le péché n'y a plus accès, ne l'a plus atteint, ne l'a plus abîmé, c'est que quand bien même quelqu'un abandonnerait la crainte de l'Éternel, il a droit à la compassion de son ami. Que nous soyons parfaitement équilibrés. Parfois, nous devenons des chrétiens pas très équilibrés. Ah, il ne marche plus avec Dieu, fini. Entre lui et moi, fini. Fini jusqu'à un certain point, c'est écrit. Mais il a droit à la compassion de son ami. Mon amitié n'est pas finie. Parce que si le Seigneur abandonnait immédiatement tous ceux qui ne viennent plus, les pauvres, comment reviendraient-ils? Comment la brebis égarée reviendrait vers le bon berger? Si le Seigneur était aussi radical que parfois nous pouvons l'être. Donc, une nouvelle création, et je termine avec ça veut dire à l'intérieur une nouvelle vie et un nouvel esprit. La nouvelle vie, elle vient de Dieu, elle vient de la parole qui nous alimente, et le nouvel esprit, qui est l'esprit de Dieu qui nous anime. Et à partir de là, ce que je vais manifester aura une autre dimension. Mais pour le faire, il faut peut-être que je laisse l'Esprit de Dieu finir son œuvre en nous. Et je l'ai marqué comme ça en terminant. Ne laissons pas l'œuvre de Dieu inachevée. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est un impératif. Et ça veut dire que l'œuvre que le Seigneur a commencé de faire, eh bien, il faut peut-être simplement lui dire, finis-la. Finis-la. Et peut-être que les problèmes, je dis peut-être, j'en suis sûr même, les problèmes que nous rencontrons sont certainement liés au fait que Dieu a commencé une œuvre en nous, mais c'est pas fini, c'est comme une maison. On a commencé de la construire, mais il faut la finir. On va pas la laisser comme ça. Il faut la terminer. Voilà. Eh bien, Dieu veut terminer son œuvre en nous. Encore faut-il le laisser faire, le laisser agir. Et si nous le laissons agir, l'œuvre, le chef-d'œuvre, sera achevé. Et quand vous regardez un tableau qu'un peintre est en train de faire, tant qu'il n'a pas fini, ce n'est pas un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre en cours. Mais quand il a fini, alors là, on s'incline devant le maître. Eh bien, quand Dieu aura fini, quand nous lui permettrons de terminer son œuvre en nous, tout le monde va s'incliner en disant, quel changement, quelle merveille, quelle grâce. C'est entre deux et le résultat, ben, il est entre deux aussi en permanence. Moi, je veux que ça se termine. Je veux être à ton image, à ta ressemblance. Je veux être un instrument de bénédiction. Je veux réussir, que les choses réussissent. Je veux être heureux et m'épanouir. Je veux que tout change.